Ok, épisode 2, bienvenue à Spectre, ça s'appelle Spectre.
Ah ouais.
On a Alexandre Bernier, gradué de l'UDM en études internationales.
Voilà.
Puis il est maintenant en communication à l'Institut économique de Montréal, l'IEDM.
IEDM.
IEDM.
Je sais, les gens ont de la misère, mais c'est parce que si on fait juste prendre l'acronyme qui est supposé être, ce serait IEM, mais au fin de branding, ça a été brandé, puis
copyrighté. Mais il me semble que tout le monde réfère tout le temps... Le monde dit IEM, non?
Non, l'IEDM.
Ah oh, ouais.
Il y a un institut de recherche qui s'appelle l'IEM, c'est l'Institut économique Molinari en France. Puis justement, Molinari, c'était un économiste, théoricien politique, économique français de. Je me rappelle plus quelle période.
Puis vous struggle avec le nom puis le branding?
Écoute, parce que pour notre mission, ça faisait partie du thinking un peu, tu sais. Nous, oui, on est un institut de recherche, puis la première chose qu'on fait, c'est produire de la documentation scientifique, mais le but premier, c'est ensuite de la publiciser puis de la faire connaître au plus grand nombre possible à travers les médias. Donc oui, il fallait avoir un branding qui se tienne, puis une image de marque aussi.
Mais l'IEM... En France, c'est un problème, non? Parce qu'eux, ils ont le nom, puis ils ont gossé. Vous n'êtes pas reliés?
Non, on n'est pas reliés. On travaille avec eux des fois. Puis nous, l'IEDM existe depuis beaucoup plus longtemps que l'IEM, mais je faisais juste dire qu'un IEM, il y en avait un. Puis nous, l'Institut économique de Montréal, c'est vraiment IEDM. Donc, gradué de 2016. Mais c'était pas clair. Début 2017, j'ai fini mon stage... décembre 2016, puis ensuite, ça m'a pris, un mois de plus pour remettre mon rapport de stage, etc.
T'avais un stage au bac?
Ouais.
À l'UDM, ça?
Ouais. En études internationales, on avait le choix entre, comme projet de fin d'année, ou comme dernier cours de fin d'études, entre un stage, un travail de recherche, ou une espèce de cours récapitulatif que tu sais, ceux qui veulent pas faire grand-chose prennent.
Mais c'est cool, ça, parce que quand je vais à d'autres places, il y a beaucoup de pays qui, là, au bac, ils ont ça. Parce que nous, c'est un truc que tu as à la maîtrise. Comme nous, moi, en ce moment, j'ai là à la maîtrise, cette option-là.
Tu fais un travail dirigé.
Ou stage. Ouais. Mais au bac, tu sais, moi, à John Monson, on l'avait pas. Il y a pas beaucoup de places qui l'ont. Mais c'est logique de faire une petite spécialisation ou un stage. Gros, c'est quand tu rentres sur le marché du travail, ça fait une différence, là, quand tu as ton bac et un stage.
J'imagine que ça dépend des programmes. Moi, en plus, avant ça, j'avais fait une mineure en Sciences Po parce que au cégep, disons que j'étais pas l'étudiant le plus assidu, là, puis j'aimais ça être un petit troublemaker aussi. Fait que j'avais pas les meilleures notes.
C'est facile, le cégep est fait pour faire ça. Là.
Ouais. Puis je voulais m'en aller en études internationales, mais j'avais pas la cotère. Puis finalement, c'est ça, j'ai fait une mineure en Sciences Po.
Qui t'ont crédité après?
Ouais, je me suis fait créditer 6 cours sur 10, en fait. Okay. Fait que. T'sais, j'ai fait mon bac en 3 ans et demi au lieu de 3 ans. Là.
Ça, c'est toujours, faut toujours que tu te battes pour faire créditer des affaires parce que eux, c'est littéralement de l'argent qui sort de. Tu sais, t'es à l'UDM. Là. Mm. Si tu les crédites pas, là, tu vas. Ouais. J'avoue, on paye pas tant que ça. Mais quand même, eux, c'est moins de profit. T'sais.
Ouais. Ouais, de ce que je me rappelle, c'était un mécanisme un peu arbitraire. Là. Tu vas voir la fille, puis là, elle est comme celui-là, ça va. Celui-là, pas vraiment, mais peux-tu me ressortir ton plan de cours, tu sais, puis me montrer qu'est-ce que t'as fait. Ouais, ouais. Mais tu sais, je trouvais que 6 sur 10, c'était correct. Là. J'avais juste pas envie de reprendre une année au complet, tu sais.
OK, fait. Puis vous voyez quoi dans ce programme-là, en gros?
Études internationales, dans le fond, la première année, sur les 10 cours, t'as 2 cours de droit, 2 cours de Sciences Po, 2 cours d'économie, 2 cours d'histoire, puis 2 cours qui appellent, tu sais, c'est sigle INT au début pour international.
Okay.
Puis c'était genre des cours sur comme l'aide internationale, puis...
Fait que c'est quand même broad, là, ce que tu vois.
Ouais,
là.
Exact. Fait que la première année, tu sais, tes cours de tronc commun, tu touches à tout, puis ensuite, pour les 2 dernières années, tu te spécialises, soit en Sciences Po, soit en histoire, soit en économie, etc.
Ah, OK.
Ouais. Puis aussi, t'as des cours de langue obligatoire.
OK. T'as pris quoi?
Moi, j'ai pris espagnol.
T'es-tu pas pris?
Ouais.
Ouais?
Ouais, yo hablo l'espagnol también,
si. Sacrément. Ouais. Avec Bourget, on en prend depuis un petit bout de temps. Des
ouais, Bourget, ton premier invité sur le podcast.
Ouais, j'y vais en termes de ceux que j'aime.
Ok, ouais. Je suis content de savoir que tu m'aimes moins qu'Antoine, ouais, mais plus ça. Que les autres. Ok.
que j'allais dire, ok, fait que puis ton stage, tu l'avais fait à l'IEDM, right? C'est là que tu as commencé?
Ben, j'ai fait un stage à l'IEDM, oui, mais ça, c'était un stage rémunéré après qui n'était pas dans le cadre de mon bac. Dans le cadre du bac, j'ai fait un stage au Parti libéral du Québec.
Ah ouais?
Comme stagiaire, ça a duré 2 mois. Et
qu'est-ce que tu faisais, moi, dans ma tête, pour des partis politiques? C'est plus du... Je sais pas, en fait. Tu faisais quoi?
Ben là, la période où j'ai fait mon stage, c'était d'octobre à décembre 2016. Puis, il y avait 4 élections partielles. Parce qu'il y avait des députés qui étaient partis, soit qui étaient partis à cause de scandales ou qui avaient décidé de partir d'eux-mêmes. Mais donc, durant cette période-là, le 5 décembre exactement, si je me rappelle bien, il y avait 4 élections partielles. Puis ils avaient besoin de bras là pour.
Au Québec.
Au Québec.
Toutes ces positions.
Exact, exact. Il y avait 4 élections, je pense. Écoute,
c'est beaucoup.
Ouais. Il y avait Saint-Jérôme, il y avait la jeune députée du Bloc qui a été élue, Catherine Fournier, à quelque part sur la rive sud. Je ne me rappelle plus du nom de la circonscription. En tout cas, bref, il y avait 4 partiels. Puis ils avaient besoin d'aide là. Puis aussi, ils montaient un nouveau site web. Puis,
Tu connais pas ça, man? Monter un site web?
Non, je connais pas ça. Pas en tout, mais le frame du site web était déjà fait.
Okay. C'était genre le remplir.
Exact, c'était le remplir. Mais tu sais, il y avait du stock. Là, puis il fallait aussi que je m'occupe d'aller chercher la biographie de tous les élus, des 125 élus. Pas des 125, non, il y a 125 circonscriptions, je ne me rappelle pas, il y avait combien d'élus.
OK, fait que tu faisais pas le site web juste pour, pour le parti au complet, là.
Ouais, exact. C'était au siège social du parti, tu sais, c'était ce qu'ils appellent la permanence du parti. Dans le Vieux-Montréal, très beau bureau d'ailleurs, gang super cool, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai appris en 2 mois, c'est difficile de faire beaucoup de choses, là. Ouais. C'est ça que tu te rends compte. Là.
C'est vite, c'est vrai que c'est wow.
Ouais, 2-3 mois, c'est rapide.
Ton stage que l'UDM met obligatoire pour graduer, c'est 2 mois?
Ouais, c'était 3 mois, puis en plus, moi, vu que c'était comme 4 mois, c'était 5 jours semaine le stage, ça me créditait l'équivalent de 2 cours au lieu de 1. Puis, ouais, c'était rapide, là. C'était l'équivalent d'une session, là. Mais je veux dire, ça aussi, c'est un peu aléatoire, là. Ouais. Tu peux faire, mettons, j'imagine que j'aurais pu faire plus qu'une session, mais moi, c'était 3 mois à peu près, le stage, là.
OK.
Ouais.
Comme c'est short and sweet.
Ouais.
Puis, c'est-tu le siège social des libéraux à travers le Canada, dans
Montréal? Non, c'était le PLQ, Parti libéral du Québec.
Ah, c'était du Québec que
ouais.
T'as fait ça.
Ouais.
OK, fait que là, t'es allé... OK, fait que c'est ça, là, on le voit, là, il y a une transition tranquillement ouais. Libéraux, puis après, finalement, qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'IEDM quand t'as... Ça, c'est après gradué.
Ouais, t'as exact, gradué. Exact. Donc, je finis mon stage en décembre au PLQ. Ensuite de ça, au retour des vacances, début janvier, il reste encore des dossiers à finir, fait que le PLQ m'engage pendant juste 2 semaines ou 1 mois pour finir des dossiers qui avaient comme spillover après Noël. Donc, j'ai travaillé encore un peu avec eux. Puis ensuite de ça, j'étais au chômage. j'avais fini. C'était,
comme honnêtement, tout bon gradué, là.
Ah ouais. Non, mais sérieux, c'est une période stressante. Là, tu penses que tu es dans tes études, tu as des examens, tu penses que c'est stressant. Moi, finir, ne pas savoir. Tu sais, c'est genre, OK, c'est quoi la prochaine étape? Genre, maîtrise, est-ce que je travaille?
Moi, c'est littéralement pour ça que j'ai fait de maîtrise, là. Pour pas avoir à penser à tout ça, là. J'ai comme pas que ça, là. J'ai retourné à l'école.
Ouais.
Il y a plein de monde qui font ça aussi.
Mais moi, honnêtement, j'en avais ma claque. Puis, donc là, j'ai un de mes amis avec qui j'avais étudié au bac qui, lui, avait déjà fait un stage à l'IEDM, qui travaillait là, qui avait un poste permanent là, car j'avais de WhatsApp, si tu nous écoutes.
Puis, sûrement qu'il écoute pas.
Non, mais je vais peut-être lui envoyer.
Si ça va être ta mère, ma mère, mon grand-père. Mais OK.
Et ouais, fait que lui, il m'a dit, hey, il y a un programme de stage à l'IEDM. Je sais que toi, t'es assez free market.
Ouais,
je sais que
t'es assez. Il prenait des stages. Il prenait des stages.
Exact. Il y a encore des programmes de stage pour l'été.
Je suis intéressé, ouais.
Puis, je pense pas que tu fites le profil.
Je sais pas.
Puis, il était comme, tu sais, t'es free market. Puis, je sais que t'aimes la pensée libérale classique, le libéralisme. Et là, j'ai fait oui, absolument. Écoute, il y a un programme de stage, applique. Puis là, j'ai fait comme, ouais, OK, cool. Puis voilà, ça fait...
Ça fait longtemps que t'es là-bas, me semble, depuis...
Ça va faire 2 ans en mars.
Okay.
Fait que, écoute, là, 1 an, 8 mois, 1 an, 9 mois, 10 mois, là.
Ouais. OK. Puis cette pensée-là, genre libertarienne classique, dans le fond, quand tu travailles...
Libéral classique. Le terme a été déformé vers libertarienne parce que les étatistes, ceux qui veulent utiliser l'État... soit à droite ou à gauche, à des fins sociales, économiques et tout.
Okay.
Donc, moi, ce que moi, j'appelle les étatistes, ils se sont attribués le terme libéraux. Tu sais, on le voit avec, tu sais, aux États-Unis, genre, ah, damn liberals.
Ouais.
Mais, à la base, le libéralisme, c'est ce que monsieur, madame, tout le monde vont associer à la droite. Mais ce qui est en fait juste les gens qui veulent plus de liberté, moins d'intervention d'État. Parce qu'à droite comme à gauche, tu peux avoir un étatisme, tu sais. La droite va dire, moi, j'utilise l'État puis son pouvoir de légifération et son monopole de la violence pour, mettons, interdire l'avortement ou interdire le mariage gay. Right. Fait qu'à droite comme à gauche, right, t'as des gens qui veulent utiliser l'État pour imposer leur vision de la vie sur, right, des individus qui, eux, peut-être, qui veulent fumer du pot, se marier avec un autre homme, puis que leur femme est une... puis qu'une femme est un avortement, tu sais. Donc là, le terme libéral classique, c'est ni de droite ni de gauche. D'après moi, c'est juste vraiment axé sur la liberté des individus.
Oui. Parce que ça aussi, c'est un crise de beau shit show. J'essayais de regarder avant, puis les mots, les, ouais, définitions des mots, comment, ouais, ils changent. Mais aussi, un des gros, je pense, un des gros points que je voulais aborder, c'était... j'ai l'impression, puis c'est pas j'ai l'impression, en fait, c'est que n'importe qui que tu parles de libéralisme, l'association première qu'ils font, c'est avec la droite. Mais en gros, c'est plus comme tu viens de mentionner, c'est une droite qui est économique. Parce que la droite, là, si tu prends les... tu sais, il y a beaucoup de choses comme les avortements et tout ça aussi, mm-hmm, qui n'alignent pas vraiment avec ces préceptes-là du libéralisme. Comment tu le... c'est quoi l'adverbe du libertanisme?
Attends, tu viens, okay, de me... Tu viens justement de me le bloquer sur la langue. Ouais. La pensée libertarienne, le libertarianisme, ou sinon juste le libéralisme classique. Je pense, okay, que c'est vraiment ça. C'est les penseurs libéraux classiques. Bastiat, Adam Smith, avec The Wealth of Nations, même Ayn Rand.
OK, ça, beaucoup... c'est genre fondamental, Wealth of Nations? C'est genre
The Wealth of Nations, ouais.
Je pensais pas que c'était un des genre base de
l'idéologie. Ouais, libéral classique, un des ouvrages fondamentaux, hein, effectivement.
OK. Mais ouais, mais donc, j'ai essayé de démystifier, genre, ben, tu t'en as parlé un peu il y a deux secondes, mais de démystifier que c'est pas parce que c'est libertarien.
Que c'est libertarien ou que c'est libéral classique que c'est à droite.
Exact.
Non, puis moi, j'aime pas honnêtement la dichotomie gauche-droite, justement pour cette raison-là, parce que... honnêtement, comme j'ai un peu expliqué, à gauche et à droite, t'as des gens qui veulent utiliser l'État, puis tu sais, le pouvoir légal, puis le pouvoir de créer des lois pour imposer leur volonté sur des individus. Et tant à gauche ou à droite, un libéral classique va dire que ça c'est wrong, tu sais, que ça c'est mal. Puis un adage que le Parti républicain, que le Parti libertarien, je pense que c'est canadien, Tim Owens, sont les deux, ils utilisent, c'est I want a gay man to smoke weed while, you know, getting married. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment à la base de la pensée libertarienne, puis ça rejoint un peu, tu sais, des côtés autant qui sont associés à la droite qu'à la gauche, c'est que, tu sais, autant au niveau économique et au niveau social, l'État ne devrait pas te dire quoi faire, tu sais.
Ça va chercher, en fait, l'économie. Puis au niveau... dans le fond, c'est économiquement, ils sont beaucoup plus avec la droite, mais socialement, si on peut dire, la
c'est balance... plus à gauche. Ouais, beaucoup plus. Mais l'important, c'est que ça soit pas légiféré par l'État, tu sais. L'État ne devrait pas obliger l'Église catholique, qui est une institution privée, à marier des gens.
Ouais.
Mais
si... ça, c'est un autre point où genre, beaucoup de gens seraient d'accord avec, dans le fond, c'est, comment t'appelles ça, qu'il n'y a pas l'Église dans l'État, là,
ouais, que ça soit, séculaire. Que ça soit le, ouais, le mouvement séculaire, la pensée séculaire. Le...
Right.
Ouais. Ouais, exactement, tu sais, je veux dire, si l'Église catholique, sa mission première, c'est de marier un homme et une femme, je veux dire, c'est pas le rôle de l'État d'obliger cette organisation privée-là à marier un homme et un homme, une femme et une femme. Par contre, un mariage civil célébré par l'État, là, il devrait avoir moyen de autant marier un homme avec un homme qu'une femme avec une femme. Dans le fond, okay, attends, la liberté devrait être laissée aux individus, tu sais. Si on veut avoir une union légale, un mariage civil, l'État, d'après moi, ne devrait pas différencier entre un homme et un homme, une femme et une femme. Mais si l'Église catholique, elle, pour un mariage religieux, elle insiste pour que qu'un mariage chez elle, ça soit un homme et une femme et rien d'autre, ben je veux dire... Big deal, c'est une institution privée, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, tu sais.
Il y avait aussi beaucoup de... je me souviens d'un cas, puis je me souviens...
C'était genre ça va avec... Il y a une idée importante là-dedans, c'est la discrimination positive chez des entreprises privées. Ou... Tu sais, si, mettons, Puis ça, c'est une autre idée qu'un libertarien ou un libéral classique serait d'accord avec, ou la plupart le seraient, en tout cas. C'est, tu sais, si mettons, toi, t'as une boutique, t'as une entreprise, puis chez toi, ça te tente de vendre tes pâtisseries juste à des noirs, puis que t'exclus tous les blancs, ben, big deal. L'État devrait pas t'obliger à vendre à tout le monde. C'est à toi, c'est ton institution privée.
C'est exactement tu là que décides, tu t'en allais.
Ouais. C'est là que tu t'en allais.
Parce qu'il y a eu le cas aux États-Unis avec le gâteau.
Voilà, ouais, 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 absolument.
Il a pas voulu faire un gâteau, le monsieur, pour un
là, là j'ai pris l'exemple de genre vendre uniquement à des noirs pour être politiquement correct, mais tu sais, ouais, n'importe quelle discrimination, si tu veux vendre juste à des blancs, juste à des noirs, juste à des homosexuels, juste à des femmes, juste à des gens avec des cheveux blonds, toutes les discriminations positives, tant que c'est du domaine privé, ça devrait être correct. Il y a juste l'État qui devrait être ouvert à tous. Puis après ça, légiférer dans la vie privée des gens, moi, je ne suis pas fan de ça. Là.
Ouais, mais tu sais, même en... Tu sais, ça sonne... comme première fois que tu l'entends, mettons le cas, je me souviens encore, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était... Puis il a dit, c'est ça, c'était un couple gay qui voulait un gâteau de mariage, puis le gars, il a dit non. Ça sonne weird un peu comme pourquoi. Mais ça, c'est une chose.
C'est pas gentil. Puis ça veut pas dire qu'un libertarien ou un libéral classique va être moralement d'accord avec la décision de ce gars-là. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je veux dire, j'aime tout le monde, puis si jamais j'ouvrais une pâtisserie, je vendrais à tout le monde parce que, écoute, plus de business pour moi, let's go, là, tu sais. Ouais. Mais si, mettons, moi, je suis raciste, puis j'ai pas envie de vendre à une ethnie ou à une autre, ou à une orientation sexuelle ou à une autre, je veux dire, c'est ton problème, puis moi, qui est ouvert à tout le monde, je vais prendre le local à côté du tien, je vais ouvrir une pâtisserie qui dit ouvert à tous, ouais, n'allez pas chez le gars d'à côté, tu sais, puis un libre marché va faire en sorte que je vais être pas mal, probablement plus populaire que toi, tu sais.
Puis tu sais,
je vais réussir à te battre.
Puis il y a quand même, tu sais, le trend de gens qui seraient, ouais, vas-y, de gens qui seraient un peu genre frustrés par ça, mais après le contre-exemple que moi qui me bloque, que je pourrais pas répondre, c'est vraiment, imagine, tu sais, justement, tu changes la discrimination, là, c'est, ok, un gâteau nazi. Ah, là, par contre, Chris, j'aurais plus de misère, tu sais. Tu sais, mais toi, t'as ta pâtisserie. Mais toi, évidemment, selon tes préceptes, t'as pas de trouble. Non, c'est tu décides.
Non, ben moi, je veux dire, j'irai jamais acheter mon gâteau chez quelqu'un qui a une pâtisserie nazie, là, tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais à la fin
mais
de la
ça journée... reste le choix des individus, puis ça devrait pas être l'État qui intervient là-dedans, tu sais.
Mais ça, même des États comme la, tu sais, la Cour suprême des États-Unis a jugé en faveur du monsieur. Ouais. Il a dit, tu peux pas. Puis ça, c'est, tu sais, je parlais avec Antoine la dernière fois, puis il disait justement, c'est un principe quand même fondamental que pas mal tout le monde a accepté, c'est que l'État, ben, à ce niveau-là, l'État peut pas te forcer, comme tu as dit, à faire quelque chose. Genre, tu sais, c'est comme aussi des plaintes entre des employés puis employeurs.
Mm-hmm.
L'État va pas, tu sais, plus ou moins, mais il va pas forcer la personne à regagner une place. Il va avoir une compensation. Ouais. Tu peux pas vraiment forcer physiquement, je pense-y, là. Tu vas prendre la personne, tu vas prendre ses mains, puis tu vas lui faire le gâteau, ça fait pas de sens.
Non, exact. Puis si t'es dans un libre marché, ben justement, tu laisses la porte ouverte à quelqu'un pour s'installer à côté, puis lui ouvrir une pâtisserie qui est ouverte à tous, puis je te garantis que la pâtisserie ouverte à tous va faire de la meilleure business, puis va probablement faire échouer celle d'à côté, tu sais. Fait que,
ouais.
Puis en même temps, si le gars il a trouvé sa niche puis il vend à ses autres hurluberlus du Ku Klux Klan, je veux dire, bravo, c'est ton problème là, mais tu sais, je veux dire, je suis pas d'accord avec ça, mais je défends ton droit, je défends ta liberté d'ouvrir la business que tu veux puis de vendre à qui tu veux, tu sais. Puis ça, c'est un principe important de la pensée libérale classique, c'est tu sais, laisser les gens faire leur propre choix. Puis après ça, tu dis, ok, mais est-ce qu'il y a des limites à ça? Quelles sont les limites, tu sais, au libre choix puis au libre marché? Puis il y a une réponse toute simple. C'est quand t'imposes un choix à quelqu'un. Fait que, tu sais, le meurtre serait illégal dans n'importe quel État libertarien, dans n'importe quel État qui applique les principes libéraux classiques. Pourquoi? Parce que t'as tué quelqu'un. C'était pas son choix de mourir. T'as décidé de lui imposer un choix. Par exemple, donc le meurtre est illégal, le vol est illégal, le viol est illégal également. T'sais, tout ce qui on appelle les crimes avec victime.
Ouais. Mais au niveau social, je pense que parce qu'encore moi je fais tout le temps le parallèle que genre notre génération, t'es d'accord que c'est... Ben, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas mal plus de gauche que mettons, nos grands-parents. Économiquement, pas mal tout. Mais j'allais dire, j'ai l'impression que au niveau social, tout ce qu'on vient de parler, comme vous rejoignez genre pas mal tout le monde. C'est ouais. en plus au niveau économique un peu que ça, que ouais. ça change un peu. Mais puis comme tu as dit, en fait, puis encore ça, je voulais dire, il y avait un. Je me souviens plus, c'était une vedette là, américaine. Puis il avait dit exactement ton point par rapport à l'église. C'était un homme gay. Puis il disait fuck eux, l'église.
Ouais.
Fuck eux, là. Comme pourquoi vous. Puis je pense qu'il faisait un appel. C'était-tu écrit ou j'ai vu une entrevue? Puis il faisait un appel à genre la communauté gay. Puis t'es comme, dude, fuck them. Tu sais, comme, juste genre, pourquoi vous voulez fuck leur église, fuck tout. Puis ouais. regarde à la fin, qui rira bien, qui rira le dernier. Ils sont tous en train de se faire transformer en condo, les
ouais.
églises.
Ouais.
Fait que c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça s'agit. Je veux dire, le monde est vraiment. Juste comme, fuck you, là.
Ouais. Mais non, effectivement. Puis. Mais fuck eux, mais en même temps, je veux dire, tu sais, c'est une institution privée. Puis t'as vu. Voilà comme une entreprise qui offre un service. Est-ce que le service qui est offert par l'église en ce moment est populaire? Est-ce qu'ils se sont adaptés?
Ouais.
Est-ce qu'ils se sont adaptés? Absolument pas. Les églises, comme tu dis, sont en train de fermer, puis les gens sont de moins en moins religieux. Puis ça, c'est le danger de tomber dans un dogme. Tu sais, eux, ils ont comme des règles, tu sais, comme invariables, tu sais, qui peuvent pas être pliées, puis il y a pas de réforme possible. Puis, tu sais, c'est théologique, c'est dogmatique, c'est ça et c'est rien. Puis, je veux dire, ça n'a aucune capacité d'adaptation avec le monde d'aujourd'hui. Puis, on voit que l'Église est en train de mourir. Puis, tu sais, le nouveau pape qui est supposé essayer de faire des...
Ouais, il essaie.
Ouais, mais il se bute à sûrement, tu sais...
À toute l'institution.
Exact.
Parce qu'il y a l'air quand même... Ben, en tout cas, pas comme si je le connaissais, mais il y a l'air quand même plus smart que...
ouais.
qu'une couple d'autres. Mais gros, après, la religion, genre... Parce que moi, je fais tout le temps le lien. Une religion, OK, mais comme n'importe quelle idéologie, à un certain point, c'est une religion aussi, t'sais. Je veux dire, la définition d'une religion, on l'a faite, mais après, c'est de suivre un ordre d'idée. Puis je veux dire, tu prends n'importe quelle idéologie économique, puis t'as même pas besoin d'aller dans les extrêmes. Littéralement, n'importe quelle. Puis ce que tu viens de dire, c'est assez vrai aussi que comme ils sont assez fermes. Je veux dire, en gros, si t'as une idéologie économique, puis tu la changes, t'es un cave. Ou ton idéologie est faible. Right? C'est un peu weird que ce soit comme ça que ça marche.
Ouais.
Puis c'est un peu comme ça que ça marche, right? Tu sais, t'as pas d'incentive à changer. Quite the opposite.
Mais tu sais, le libéral... Mettons, j'en viens au libéralisme classique, c'est beaucoup plus qu'une théorie économique, tu sais. C'est comment est-ce que tu souhaites que la société autour de toi soit construite, tu sais. Est-ce que tu souhaites laisser la place au choix entre individus ou tu souhaites leur imposer certaines façons de faire et tout, tu sais. Je veux dire, ça, tu sais, ça dépasse... Tu sais, la théorie économique, mettons, tu prends le modèle keynésien qui, lui, va dire, tu sais, la demande va être stimulée par, tu sais, des interventions gouvernementales dans l'économie, puis des programmes de subvention, puis injecter de l'argent, tu sais. Ça, c'est vraiment comme un système de, tu sais, un système d'action économique, alors que le libéralisme classique, c'est aussi une philosophie sociale, tu sais, puis une philosophie politique, d'après moi, avant tout, puis... C'est vraiment... Il y a plusieurs principes moraux qui moi, je pense, en font une vision politique et de société supérieure. C'est que tu peux... Tu sais, qu'est-ce qui, toi, te permet de penser pour l'autre puis de lui imposer, tu sais, ta propre vision? Dans un système parfait de libéralisme, tu sais, où il y a
de quoi on parlait avant que ça bug.
Ben là, on était rendu à... ça fait mal, hein?
Ouais.
Ça fait mal, ça. On était rendu à... Ça, je sais pas, ça a complètement...
Fucked up, ça? Gros, on est séquelles, man?
C'est comme coït interrompu.
C'est exactement ça. Le Kindle, je pense.
Ouais, je pense que t'étais sur ton Kindle.
Gros achat. T'en as pas?
Non, quoi, j'ai pas de Kindle.
Évidemment, t'es old
school. Ouais, non, donc, ouais, voici, on parlait des livres. C'est que... Ah, man, par où commencer, t'sais?
Ouais. Gros, tu m'avais pas parlé de, mettons, l'histoire de comment... Genre, t'as connais-tu un peu, genre? Des frères... Ben, tu disais Adam Smith tantôt. L'histoire de Jean
Libéral. Une grande œuvre du libéralisme, mettons, de la pensée libérale classique. Adam Smith, The Wealth of Nations.
Lui, es-tu considéré comme?
Ouais, comme un penseur libéral classique, ouais. Frédéric Bastiat aussi, avec La Loi, The Law, pour quelqu'un qui veut s'initier au libéralisme. Un français.
Ouais. Ouais. Dans le fond, ça, on en entend parler beaucoup aux États-Unis, mais en Europe, ça ressemble à quoi ces mouvements-là de libéralisme?
Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un de mes collègues à l'IEDM, Kevin Brooks, qui lui a travaillé un petit peu dans le milieu des think tanks, des instituts de recherche privés en France. Puis il me disait que c'est juste. Il reste beaucoup dans le théorique. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de fonds privés qui sont alloués à ça, alors qu'ici en Amérique, il y a beaucoup de fondations qui donnent au mouvement free market, au mouvement libre marché. Mais
pourquoi c'est comme...
En Europe, écoute, je sais pas si c'est parce qu'ils peuvent facilement, je veux dire, tu sais, s'associer
plus mais ou moins. Mais déjà, en partant, comme on parlait tantôt, genre la Suède avec leur système de santé, ils ont peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ce mouvement-là en tant que tel parce que tous les autres mouvements ont été chercher des idées de. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'ils n'ont pas comme le besoin du mouvement pur, peut-être?
Peut-être. Je sais que le think tank comme tel, le phénomène du think tank, c'est vraiment un phénomène qui est américain et qui est en
ils n'ont juste pas l'équivalent, là, genre moins.
Ouais, il y en a, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'argent privé pour ça. Puis, je sais pas si c'est un simple... Tu sais, je vais prendre l'exemple de la France parce que c'est mon collègue m'en a parlé plus que des autres, mais...
Lui, il était là-bas?
Oui, lui, il était là-bas, puis il a immigré ici après son PhD parce qu'il était tanné de la France puis de l'intervention tous azimuts de l'État là-bas, du gouvernement là-bas. Puis il a travaillé dans un petit think tank qui s'appelait l'École de la Liberté où il produisait des vidéos, ma foi.
Puis l'École de la Liberté, c'est quand même un nom catchy.
Style européen. Là, eux, vraiment, ils sont. Honnêtement, ici, les think tanks, c'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins théorique, philosophique qu'en Europe. Tu sais, je veux dire, où je travaille, on est pas mal tous libertariens. Mais par contre, ce qu'on va proposer, c'est des réformes. Petit à petit, faut que le message qu'on ait, il soit socialement acceptable. Si t'arrives puis tu dis « taxation is theft », tu sais, je veux dire, tu viens de perdre, il y a personne qui va t'écouter, le monde va être comme t'es un malade.
Ouais.
Mais si t'arrives puis tu dis « écoutez, dans le système de santé publique au Québec, je veux dire, il y a des problèmes d'efficacité, il y a des problèmes de coûts, voici certaines réformes qui peuvent améliorer la compétition, tu sais, entre les acteurs. » Fait que le but, là, ultimement, là, c'est de petit à petit améliorer la situation aussi. Parce que, tu sais, on veut pas tout démanteler. C'est de petit à petit améliorer la situation avec des réformes qui, nous, on croit, puis que la théorie économique nous indique, qui peuvent justement aider à avoir de meilleurs résultats. Fait que, tu sais, une attente qui est moins longue.
Ouais, mais redonne-le, là, parce qu'on vient, on vient de perdre 20 minutes de footage, mais remonte l'exemple des hôpitaux, mettons. Ça, c'est vraiment je te dirais, l'exemple où je serais le plus on board.
Ouais.
Évidemment, faudrait s'assurer de plein d'affaires, mais comme l'idée en général fait de sens. Mais après, c'est aussi l'implémentation, que c'est un crise de beau shit show.
Ouais, parce qu'il faut que tu te battes contre toutes les structures, contre tous les groupes d'intérêt qui sont dans le système modèle, de santé.
Le modèle en Europe.
Fait que ici, le modèle de santé au Québec, la qualité des soins est hyper bonne. Tout le monde est d'accord. On a un très bon système de santé. Par contre, au niveau de tout ce qui est attente et coût, on fait moins bien qu'ailleurs. Quand on parle d'ailleurs, c'est des pays aux économies comparables. Fait que, d'habitude, c'est comparé avec les 35 pays de l'OCDE. Je veux dire, le Québec fait moins bien en termes de coût, puis en termes d'attente, puis en termes d'accessibilité aux soins de santé. Puis quand on regarde les premiers de classe, ça peut être la Suède, ça peut être l'Allemagne, même la France qui fait très bien au niveau de l'accessibilité puis des coûts associés au système de santé. Puis c'est tous des systèmes de santé universels comme au Québec, ça c'est-à-dire que tu y vas, tu obtiens tes soins, tu payes pas une scène, le gouvernement paye. La grosse différence, c'est qu'en Europe, dans plusieurs pays, il va y avoir des hôpitaux privés à l'intérieur du système public universel.
Il n'y a que des hôpitaux privés.
Non.
Ah, il y a le...
Non,
le, y a
pas des... nécessairement.
Ah, ouais.
Mais même à ça, leur système public, là, je vais prendre le cas de la Suède, parce que c'est celui qu'on a le plus étudié à l'IEDM, même les hôpitaux qui sont publics, c'est-à-dire gérés par le gouvernement, vont être plus efficaces et meilleures que nos hôpitaux...
Que nos hôpitaux au Québec
publics gérés par le gouvernement ici au Québec. C'est juste une question de décentralisation. Là-bas, les hôpitaux sont pas sous le contrôle, mettons, du gouvernement du Québec. Ils seraient plus sous des autorités régionales qui connaissent les particularités de leur région, qui prennent une décision qui est basée sur le local. Tu sais, quand t'es Gaétan Barrette ou le nouveau ministre Lionel Carman là, au Québec, comment veux-tu prendre une décision, tu sais, top-down pour le petit CLSC qui se retrouve sur la côte nord, à Chibougamau, whatever, tu sais. J'ai aimé comment t'as dit Chibougamau et moi, côte nord, on passait les deux à la même affaire. Mais, et donc, en Europe, comment ils font mieux, c'est que c'est l'État qui paye pour le service, mais c'est pas l'État qui donne lui-même le service.
Right.
Donc, t'as tous les avantages de la compétition privée. Tu sais, ici au Québec...
Genre innovation...
exact. Technique de management, meilleure, plus de flexibilité avec leur personnel. Tu sais, parce qu'ici au Québec, même les médecins qui sont acceptés dans les facultés de médecine des universités, leur nombre, il est régi par le gouvernement, tu sais. Ils vont dire, OK, cette année, il y a X nombre d'étudiants en médecine qui vont avoir le droit d'entrer à l'Université de Montréal, X nombre qui vont avoir le droit de rentrer à l'Université Laval.
Pourquoi tu penses?
C'est pour une espèce de planification centrale, parce que quand les patients, quand les médecins sont vus comme étant des coûts à ton but, qui sont apposés ou qui sont enlevés à ton budget global, t'as pas intérêt à ce qu'il y ait plus de médecins, à ce qu'il y ait... Puis ça, c'est vraiment un retard qu'on a au Québec par rapport à plusieurs pays d'Europe, c'est que...
Puis explique aussi les...
C'est que, ouais, c'est que le patient est vu comme une dépense et non comme une entrée d'argent, tu sais. L'hôpital ici au Québec, il reçoit son budget au début de l'année du gouvernement. Le gouvernement, il dit, voilà, t'as un budget de 1 million. Là, je vais donner un chiffre.
Rond.
Ouais, très, très rond puis approximatif, juste pour un ordre d'idée, là. Voici ton budget. Je veux dire, que tu soignes 1 million de personnes ou 5, je veux dire, c'est ton budget que tu as pour cette année. Fait que toi, en tant que gestionnaire d'hôpital, d'un hôpital, est-ce que tu as intérêt à soigner 1 million de personnes? Non, parce que tu vas buster ton budget, tu vas te faire taper ses doigts. Alors qu'un hôpital privé qui, lui, voit le patient comme un revenu, il dit, moi, j'ai intérêt à soigner le plus de monde possible. Ça m'avantage pas s'il y a une file d'attente chez nous. Faut que je trouve un moyen pour le régler. Tu sais, puis alors qu'ici c'est absolument pas le cas.
Comment ils font de l'argent? Chaque action d'un médecin, mettons dans les différents pays d'Europe là, il y a un coût fixe qui est seté.
Ouais, c'est sûr. Les hôpitaux privés là-bas, mettons en Suède, ils peuvent pas abuser puis charger 1 million de dollars pour un remplacement de la hanche. Tu sais, eux ils vont rencontrer le gouvernement, ils vont établir des tarifs pour toutes les différentes opérations, soins de santé qu'ils vont donner. Puis ensuite de ça, quand le patient vient les voir, eux, ils prennent la facture, puis ils l'envoient au gouvernement, puis ils disent, voici, on a fait un remplacement de la hanche, on avait établi que ça coûtait ça, ça et ça. S'il y a des dépenses supplémentaires, elles sont ça, ça et ça, puis voici pourquoi, voici le rapport. Puis le gouvernement, lui, ensuite, il paye. Puis ce qu'ils font de mieux aussi, en Europe, par rapport au Québec, c'est tout ce qui est données de performance, données de transparence. Les temps d'attente sont connus. Il y en a presque pas, honnêtement, aux urgences. Là, ça se rapproche même pas
d'ici. La différence est tant...
En Suède, immense. En Suède, là, je parle de la Suède parce que c'est le cas qu'on a étudié. Là.
Ouais.
Mais tout ce qui est les temps d'attente, le nombre de personnes qui ont été soignées, est-ce qu'ils ont été bien soignées, combien ont eu des infections après traitement... Tout ça est public, fait que les gens ils peuvent choisir, OK, cet hôpital-là fait mieux que l'autre, je vais aller à cet hôpital-là. Puis celui à côté qui fait moins bien, il va se dire, OK, faut que j'améliore ma performance parce que sinon, j'aurai pas de clients. Alors que, ici au Québec, essaye d'avoir ces données-là. Moi, pour certaines de nos études, j'ai fait des demandes d'accès à l'information pour avoir des données.
OK, tu l'as fait vraiment toi aussi, là, quand tu dis, c'est vraiment...
Ouais, des demandes d'accès à l'information pour le système de santé. ah, tous les bâtons dans les roues, ils ont une limite de temps pour t'envoyer quelque chose, ils attendent le dernier jour, ah, désolé, on a un délai spécial parce que ça vient d'un autre département que le nôtre, règle 34 de l'article 28, on a le droit de faire ça, je veux dire.
Ah,
puis,
ouais.
Puis honnêtement, des fois, ils font juste dire ils ont pas la donnée, tu sais.
OK.
Fait que...
Ben, ils ont pas de... Comme tu dis, le système les pousse pas, je veux dire, à garder des métriques de performance parce que
non, parce
pas
que,
de plus-value, il y a pas non, de moins-value, comme je disais, ils ont pas le temps, ils ont pas
ouais, leur vie, eux, ils reçoivent leur budget.
Right.
Peu importe, je veux dire, combien de passants vient, peu importe si l'attente est bonne ou pas, je veux dire, quand ton budget t'est donné sans que tu aies besoin d'attirer ou pas la clientèle, je veux dire, tu n'as pas les incitatifs à donner un bon service ou un service plus rapide, tu sais. Fait qu'il y a des moyens dans le système québécois universel d'améliorer la performance, puis ça, je pense que c'est en incluant plus d'acteurs privés, puis que le gouvernement n'ait pas directement la main dans l'offre de service, mais qui se contente d'établir les règles puis de payer. Puis ça, c'est un point important du libéralisme, tu sais.
Puis tu parlais aussi tantôt de décentralisation, c'est aussi un truc qui revient de plus en plus, genre, tu sais, surtout avec les mouvements nationalistes, populistes.
Ouais.
Que en fait, tu sais, tout le monde essaie d'expliquer pourquoi le monde sont tannés comme ça.
Mm.
Puis une des moi, je me souviens, Pankaj Mishra, c'est un auteur britannique indien, puis lui, sa source, c'était ça. C'est qu'on a trop centralisé la prise de décision, puis un peu comme ton exemple de... Puis c'est vrai que ça fait du sens en surface, c'est sûr. Gaétan Barrette, comment tu veux qu'ils comprennent les besoins de tu peux pas comprendre les besoins de Montréal puis comprendre les besoins de Chibougamau. Mm-hmm. C'est juste trop... Ouais. Faut que t'aies vécu là, basically. Ouais. Faut que tu viennes de là. Fait qu'il y a un call quand même pour la décentralisation du pouvoir, mm-hmm. un peu comme aux États-Unis, d'aller ouais. plus vers les États. En fait, les républicains, je sais pas, libertariens, mais les républicains sont pour ça beaucoup, de garder le pouvoir aux États, aux States.
Ouais. Aux States, ce qui est vraiment fou, c'est que le gouvernement fédéral était supposé être tu sais, le gouvernement de Washington, le gouvernement ouais. fédéral était supposé être petit et faible.
Lors de
1776, puis... Ouais.
Jefferson.
Ouais, puis, ouais. Voilà. J'ai pas le mot, là, mais Declaration of Independence, puis après ça, ouais. Bill of Rights, etc., là, 76-77. Puis... Le gouvernement fédéral a juste commencé à prendre tellement de place. Il était supposé être contraint.
Récemment par... ou penses-tu tout le temps?
Ah, ça s'est fait de façon graduelle depuis 300 ans, tu sais. Puis 250, pardon, whatever. Combien de temps, là? D'accord. Je pense que c'est 250, 1776. Mais. Puis c'est ça, aux États-Unis, c'est vraiment les différents États, parce que c'est, tu sais, c'est United States of America, ah ouais. c'est les États qui ont décidé de s'associer ensemble et ouais. de créer un gouvernement fédéral, tu sais, qui était supposé répondre à certains besoins, comme, tu sais, l'uniformisation, l'abaissement de tous les tarifs aux frontières, avoir un... Parce que déjà, dans ce temps-là, c'était des libéraux classiques, les gens qui ont écrit la Constitution américaine, puis... Il savait, ou il avait déjà l'intuition, ou il prévoyait déjà que avec autant d'États, avec d'aussi grosses populations, je veux dire, si tu élimines toutes les barrières entre ces États-là, puis tu sais, tu fais un peu comme ce qui a été fait en Europe,
right.
mais tu sais, plus longtemps avant, puis avec les États-Unis, tu élimines toutes les barrières au commerce à l'intérieur, t'as un marché unique de 275 millions de personnes, je veux dire, ouais. des bonnes choses vont en venir, tu sais, puis pour ça... C'est pour ça que les États ils ont décidé, OK, go, on s'associe ensemble, on a un gouvernement fédéral, il peut légiférer sur ça, ça et ça et ça, mais il reste petit et c'est nous qui gardons la plupart du pouvoir sur nos lois locales, etc. Mais là, le gouvernement fédéral aux États-Unis, il a toujours pris plus de place, plus et plus de place, taxation, go.
Mais c'est ça, puis on oublie souvent, moi je me souviens, c'était, je ne suis pas trop dans un cours à l'école aussi qui racontait que, tu sais, des unions, genre... T'as genre des étapes, là, union économique, union ci, ça. Puis je veux dire, aujourd'hui, sur Terre, techniquement, le plus haut niveau d'intégration, ce serait l'Union européenne, right? Monnaie ensemble, presque pas de border. Mais à la fin de la journée, États-Unis, c'est une union politique, tu sais. Donc, ouais. les États-Unis l'ont comme à un autre niveau, mais en ouais. vrai, c'est parce qu'on le voit comme un pays. Mais c'est un pays.
Ouais.
Mais c'est une union d'États. C'est une intégration politique, économique
ouais.
complète et totale.
Ouais. Mais avec des gens avec la même loi, la même langue.
Right. C'est vrai.
Puis une histoire commune beaucoup plus forte
une histoire
que par. Ouais, une histoire commune, ouais. T'sais, versus extrêmement... Commune, ouais. Ouais, versus, t'sais, l'Europe où ils faisaient ouais. la guerre encore il y a 150 ans, t'sais.
Mais ça, puis c'est ça, parce que j'ai l'impression que la gauche, mais pas la gauche, le centre, la gauche, c'est, t'sais, il y a des arguments de plus en plus vers une intégration avec les Nations Unies, gouvernement global et tout, mais c'est intéressant parce que ce gars-là que je te parle, c'est
ouais, un thinker de gauche. Ouais, mais en même temps, la gauche est souvent contre le libre-échange.
Ouais. Ouais, non, mais OK, mais attends, juste deux secondes, juste pour un general trend. Mais c'est que lui, il était pour la décentralisation. C'est un thinker à gauche, définitivement. Mm. Puis il est pro-décentralisation, puis il dit de redonner du pouvoir. Lui, il parlait aux municipalités, là, même à l'intérieur ouais. d'un pays. Laisse faire ouais. l'Europe, même à l'intérieur même d'un pays. Mm-hmm. Parce que.
Je te donne un bon exemple de décentralisation versus centralisation ici au Québec. T'as le système d'éducation publique qui est centralisé à travers le ministère de l'Éducation. Puis je veux dire, notre système public ici d'éducation, en tout cas au primaire, quand ton taux de diplomation en 5 ans chez les jeunes garçons, c'est moins de 50%, c'est pas bon, là. Il y a un problème.
Il y a ça où?
Au Québec, le taux de diplomation...
Ça se dit pas, ça. Ça se dit-tu?
Ben oui.
T'es sûr?
Un taux de diplomation, wow. Absolument.
OK. Je viens d'apprendre un mot.
La diplomation, c'est le fait d'obtenir un diplôme. Ah ouais, le taux de diplomation, c'est le ratio de combien ils réussissent versus échouent.
Ah ouais.
Les jeunes garçons, combien obtiennent leur diplôme primaire en 5 ans, dans le temps normal, c'est moins de 50%.
Ah ouais?
Ouais. Sixième année, oui, OK.
6,
ouais. Ah oh non, excuse, là je me mélange. C'est au secondaire.
Right.
Ouais, je veux parler du secondaire. Les jeunes garçons dans le système public québécois qui obtiennent leur diplôme du secondaire en 5 ans, c'est moins de 50%.
Là, on parle de au public. Soit ils redoublent ou soit ils graduent juste pas.
Exact. Ils l'obtiennent pas en 5 ans. C'est moins de 50%.
C'est quand même fou. Puis, quand on considère que c'est pas considéré difficile, right?
L'école, quand tu, pas. Puis quand tu considères garçons et filles, ça monte à comme 60, près de 70%. Puis les filles sont beaucoup plus hauts, puis les gars sont en bas de 50%, ouais. Autour de 50%. Puis tu vas à l'école privée, je me rappelle pas exactement du taux de diplomation juste des garçons, mais le taux de diplomation au privé en 5 ans, garçons et filles, c'est plus que 95%. Il me semble que c'est autour ouais. de 95%. Tu sais. Puis les écoles privées, extrêmement décentralisées, ils gèrent quoi? Uniquement leur école, avec leur budget, ils connaissent la réalité de leur clientèle, ils peuvent donner un service extrêmement spécialisé, alors que tu rentres dans des commissions scolaires publiques, puis eux, ils doivent gérer un très grand territoire. Tu rentres au niveau du ministère de l'Éducation qui doivent, tu sais, essayer d'établir des règles puis pour tu sais, des écoles.
Mais le coût, c'est évidemment off the bat, c'est le coût. Toi, tu dirais que si tout devient privé, les écoles privées viendraient à un coût raisonnable que tout le monde puisse... Parce que, tu sais, c'est ça, là, l'école privée, oui, c'est beau, ça coûte 5000 piastres par année. Fait que toi, ah, tu dis que si tout serait privé, genre, les coûts descendraient assez.
Mais imagine si tu privatisais toutes les écoles, OK? Toutes les écoles publiques, primaires, secondaires, tu privatises tout, OK? Ils gèrent leur propre lieu physique, mais au lieu de faire payer...
Ah, même principe que les hôpitaux.
Okay. Imagine, toi, t'es un parent, OK? T'as comme un ticket, là, genre, hey, moi, j'ai un enfant. Tu choisis n'importe quelle école où tu veux qu'il soit accepté. C'est une école privée, là. N'importe qui. Il va en avoir des meilleures, il va en avoir des moins bonnes, il va en avoir des plus difficiles à rentrer, des moins difficiles. Tu choisis n'importe quelle école, puis après ça, tu prends ta facture, puis tu la donnes au gouvernement. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire la gratuité de l'école primaire et secondaire pour n'importe qui le veut. Bon, premier principe, irrespecté, gratuité. Sauf que tu as tous les avantages de la compétition et de la gestion décentralisée.
Puis t'as une offre, l'offre différente aussi, c'est quelque chose d'intéressant.
Ouais, il y a peut-être une école qui va dire, OK, nous, on va se spécialiser dans les arts, nous, on va se spécialiser dans les sports, nous, on va se... Comme ça okay, se fait dans si les écoles
honnête,
privées.
OK, mais sois honnête, puis dis-moi, genre, parce que je peux
nous, pas penser... Nous, on va se spécialiser pour les enfants handicapés.
Mais c'est quoi l'argument contre? Comme faut que tu le saches, là. Moi, je suis pas capable d'en penser à un tant que ça.
Parce que... T'es d'accord avec le fait que l'important, c'est que ça soit gratuit pour les plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens.
Ouais, mais comme encore une fois, genre la société fonctionne comme ça, puis il y a beaucoup d'autres... Je pense que les écoles en Europe, c'est comment?
Aux États-Unis, ils ont fait un programme qui s'appelle les Charter School. Exact. C'est ça.
Mais ça dérape un peu, là, de ce que j'entends. En fait, ça dérape à cause de la corruption, puis que tous les owners des écoles, ils sont tous connectés à Washington. Fait que là, tu sais, je veux dire... En fait, ça doit être ça, c'est qu'il y a un potentiel de corruption, peut-être. Parce que, tu sais, Betsy DeVos, c'est ça qu'elle voulait faire. Elle voulait pousser les charter schools hard. Puis, en gros, c'est parce que... Pourquoi? Parce qu'elle travaille... Son mari, je pense, possède une école, puis tout ça.
OK. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas suivi ça, mais...
Mais tu pourrais pas dire comme ça serait quoi, genre, ben, des avantages, ou c'est sûr là, qu'il y en a à un moment donné.
J'ai juste l'impression qu'au Québec, quand tu dis privé, les gens vont dire « Ah, ça va coûter une fortune, les gens vont être à la rue, les méchants, tu sais, les méchants capitalistes, entrepreneurs, oui, genre, ils vont couper dans les services puis ils veulent juste le profit. » Mais quand tu y penses, chaque fois que tu vas à l'épicerie, tu fais affaire avec l'entreprise privée. Chaque fois que tu vas chez le coiffeur, tu fais affaire avec l'entreprise privée. Chaque fois que tu vas dans n'importe quel dépanneur, tu fais affaire avec l'entreprise privée. Près de chez moi, il y a plein de dépanneurs. Il y en a que j'aime pas parce que j'ai un service de mal et les produits sont moins bons. Je vais à l'autre à côté, j'ai un meilleur service. Tu sais, je veux dire, pourquoi ça serait pas la même logique qui soit appliquée aux écoles, sauf que là, pour éviter qu'il y ait des coûts exorbitants puis qu'on ait tous des enfants qui soient éduqués, ben, c'est le gouvernement qui paye pour ton ticket à toi, tu sais.
J'essaie encore de penser à...
Pourquoi c'est le gouvernement qui devrait éduquer nos enfants? Pourquoi c'est le gouvernement lui-même qui devrait gérer les écoles de nos enfants?
Ça a commencé quand?
Est-ce que ça fonctionne? Ça a commencé quand? Je sais pas, là, dans les années 50-60, quand ils ont créé le ministère de l'Éducation puis qu'ils ont enlevé l'éducation de la religion.
Il y avait une raison. Ah, parce qu'ils ont pris des mains de la religion. Ouais. Et là, pourquoi le privé a pas sweepé? Genre, que c'est sûr qu'il y a une raison.
Parce qu'il y a de la réglementation qui a été faite, puis parce que le système a été créé différemment. Je sais même pas s'ils ont pensé à faire une gratuité au niveau individuel. Tu sais, genre, OK, l'école va être gratuite pour tous. Vous, parents, choisissez n'importe quelle école, envoyez-nous la facture.
Parce que là, c'est ça aussi, c'est vrai que... Puis honnêtement, j'ai pas d'enfant, mais il y a une grosse curb dans la... Tu sais, tu peux même pas envoyer ton enfant dans l'autre quartier,
non, right? Exact. Ou ouais, tu peux le faire, mais tu vas avoir une tas de paperasse à faire, puis bonne chance, parce que la fille à la réception, elle va être en tabarnak.
ouais, c'est vrai. Mais ouais.
Fait que moi, l'éducation puis la santé, j'ai vraiment l'impression que sans tomber dans tu sais, le... libéralisme et capitaliste sauvage, il y a moyen d'introduire des mécanismes de compétition puis de privatisation qui seraient honnêtement bénéfiques aux gens, puis l'État continuerait de payer, puis il n'y aurait plus besoin de gérer lui-même.
Mais là, c'est la question, c'est genre, mettons pour le fun, là, comme tu commences par où? Tu commences par où? Y a-tu genre, est-ce que vous essayez de mettre un roadmap ou genre?
Ouais, moi, la première étape, ce serait d'abolir les commissions scolaires.
Mais attends, mais tu peux pas faire ça en premier.
Pourquoi?
Ben, ça va être comme qu'est-ce qui va se passer le lendemain, littéralement. Le lendemain, le monde se lève, ils font quoi?
Il y a le ministère de l'Éducation maintenant, là. Les commissions scolaires, ça date de quand, genre, dans les écoles de rang, le ministère de l'Éducation, je ne me rappelle plus exactement de la date de sa création, mais je veux dire, ça n'a pas plus que 50, 60 ans, là, le ministère de l'Éducation. Puis les commissions scolaires, elles, je pense, ça date dans des années 20, peut-être. Tu sais, les commissions scolaires, c'est plus ancien que le ministère de l'Éducation. Puis...
Il va falloir que je fasse venir quelqu'un du ministère d'une commission scolaire qui se défend, man. Je suis pas assez, genre, vraiment pensé, fait que je peux pas...
Une des excuses pour l'existence des commissions scolaires, c'est, ça permet de faire des achats locales, ça permet de faire des achats groupés, puis faire diminuer les coûts pour les écoles membres de la commission scolaire. Mais en même temps, pourquoi tu peux juste pas avoir... Pourquoi le ministère de l'Éducation peut juste pas avoir des centres de services? Tu sais, pour des trucs comme ça, comme du papier puis du crayon, puis des achats de matériel, je veux dire, OK, je comprends... T'as pas besoin d'avoir une décentralisation au max, tu sais. Commission scolaire, tout ce qu'ils font, des élections scolaires. Tu connais-tu quelqu'un qui vote aux élections scolaires?
C'est ouvert à tout le monde?
C'est ouvert à tout le monde. T'en as même pas entendu parler.
Ouais. J'ai raté ça.
Ouais.
Chaque année? De chaque.
Ouais, je sais pas, mandat. 2 ans, 4 ans, je sais pas exactement c'est combien. Mais tu sais, je veux dire. D'après moi, c'est d'éliminer les commissions scolaires parce que c'est vraiment un organe complètement inutile maintenant avec le ministère de l'Éducation. Puis au pire, je veux dire. C'est une taxe encore aux propriétaires. T'sais. Mettons, toi, t'achètes ta maison, tu payes la taxe scolaire, la taxe de bienvenue, etc.
Mais là, c'est ça, par contre. C'est que si tu décides de... Ah non, parce que tu vas dire pour les individus, ça va rester gratuit anyway.
Ouais.
Ouais. Parce que j'allais dire, si tu t'enlèves... Je sais pas, mais moi, il manque une pièce. Quand ça a l'air trop évident comme ça, genre, il y a quelque chose.
Ouais, ben, écoute, une piste que moi, je soulève, puis que c'est, tu sais, je veux dire... Le syndicalisme dans le système d'éducation publique, c'est extrêmement fort, tu sais.
Eux, clairement, qui veulent pas que les commissions scolaires, parce que c'est des jobs.
Ouais, que les commissions scolaires disparaissent et que les leurs employeurs deviennent privés et non le gouvernement, tu sais. Mettons que tu privatises toutes les écoles puis que la gratuité passe ensuite par l'enfant et non par l'école. qui elle est publique. Tu sais, qu'est-ce qui te fait dire que tu sais.
Ah, les conditions de travail.
Peut-être. Ouais. Peut-être. Tu sais, en ce moment, là, pour chaque dollar, la plus grande majorité d'un dollar de plus investi dans le système public d'éducation, ça s'en va vers le fonds de pension des professeurs qui est presque non solvable, puis des frais de gestion. T'sais, combien de ce dollar de plus-là que tu rajoutes dans les frais, dans le financement de l'école publique, s'en va vraiment au service à l'élève, t'sais. C'est ça aussi, quand le gouvernement quand le gouvernement dépense dans son système de santé et dans son système d'éducation, je veux dire, au niveau bureaucratique auquel on est rendu, écoute, j'ai pas les données, mais moi j'ai l'impression que la majeure partie du dollar de plus investi s'en va vers le fonds de pension non solvable. Puis
les états financiers des commissions scolaires, on a-tu accès? C'est public?
Je sais que le ministère de l'Éducation publie un rapport qui est quand même assez bon toutes les années sur...
Lui, il oversee les commissions scolaires.
Ouais.
Non.
Ouais.
Mais il a-tu son mot à dire?
Ah, mais non, ministère de l'Éducation? Oui.
Mais son compte un peu. Contre les... Ah, ben c'est les syndicats. Mais les syndicats, quand ils sont en grève contre les commissions scolaires ou contre le gouvernement du Québec?
Contre le ministère, contre le gouvernement, moi, je pense.
OK. Intéressant.
Ouais. Mais c'est ça, moi je pense que c'est éducation puis santé, c'est deux places où, tu sais, pour reprendre le thème du podcast, deux places où, tu sais, des idées de compétition puis de privatisation provenant du libéralisme classique pourraient avoir le plus d'effet sans enlever l'élément de gratuité, parce que le gouvernement continue d'être payeur, mais non gestionnaire.
En fait, c'est ça. C'est clairement deux endroits où qui serait un bon middle ground, parce que clairement je pense que si tout le monde écoute le cas qu'il y a à faire, va se dire que c'est fou. Que c'est toasté, que ben non, c'est malade. Ils disent ça quand ils entendent des soundbites, tu sais, parce qu'ils ne font pas expliquer au complet.
Mais c'est deux domaines au Québec, je pense, qui ont besoin d'une bonne dose de décentralisation et de compétition, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a de l'inertie, là, complètement. Ça dort, les budgets. Je veux dire, les dépenses du gouvernement en éducation puis en santé, puis on a fait l'exercice à l'EDM, ils n'ont pas arrêté d'augmenter depuis les 15 dernières années. T'sais, oui, on a gelé l'augmentation durant un ou deux ans de couillard, mais je veux dire, il n'y a pas eu des coupures. Il y a juste eu des augmentations moins élevées, sinon nulles, pendant un ou deux ans. Sinon, depuis 15 ans, les budgets ils augmentent tout le temps. On met toujours plus d'argent dedans. Puis, honnêtement, est-ce que ça donne des résultats? Je veux dire, est-ce que vous attendez moins à l'urgence?
Les fils rallongent, me semble, t'entends dans les médias.
Ouais. Puis, est-est-ce que la diplomation est meilleure?
Toi, tu me dis avec ton mot diplomation.
Ouais, je te le dis, c'est un mot, man.
Non, je sais, comme je te crois. Mais chaque fois que tu le dis, ça sonne comme... J'ai le goût de te dire, voyons, ça se dit pas à chaque fois, diplomation. Mais puis c'est ça, puis les taux de diplomation baissent aussi.
Ouais, bah en tout cas, si je me rappelle pas s'ils baissent exactement,
anyway, mais ils sont à 50%.
Ils s'améliorent pas. Ouais, 50% chez les garçons au secondaire en 5 ans. Ouais, c'est pourri.
Fucked up.
Dégueulasse. Mais ouais, donc c'est ça, ouais.
Il y a autre chose que tu voulais parler, ça fait quasiment une heure. On a perdu 20 minutes
jusqu'à pote. Ouais, on a perdu 20 minutes jusqu'à pote. Honnêtement, faut que je raconte l'histoire du cadeau.
Quel? Ah, c'était
Antoine. Dedans? Ouais, je pense qu'on a perdu ça aussi. Ok, fait qu'on on a en fin de semaine...
Mais faut que tu dises où tu l'as acheté, par contre.
Ouais, oui, ok, on va plugger. Le gars, honnêtement, ok, faut que je le raconte, puis ensuite je parlerai du dude qui a produit ça. On a un échange de cadeaux avec des amis, puis Antoine, qui était là au podcast numéro 1 ici avec JC, pour le niaiser, je l'appelle mon petit communiste, ou je le traite de communiste, parce qu'il est un petit peu gaucho.
Il est correct, Antoine, c'est un bon gars, il est correct.
Fait que là, je me rappelais avoir vu un meme sur un livre qui s'appelle Why Socialism Works, puis c'est vraiment le parfait petit livre rouge, c'est genre 250 pages, le livre est tout rouge avec la faux et l'enclume, comment il appelle ça, le signe communiste?
Je sais pas, mais c'est des soviets,
voilà, le signe soviétique, puis Why Socialism Works, puis tu l'ouvres, puis sur chacune des 250 pages, c'est écrit « It doesn't » en plein milieu, en gros, fait que Why Socialism Works, tu filtres les pages, « It doesn't, it doesn't, it doesn't, it doesn't. » Puis là, je donne ça à Antoine. J'ai donné deux livres. Je lui ai donné ce livre-là, puis un autre que je vais mentionner après. Puis là, je lui dis, Antoine, faut que tu déballes celui-là en premier. Puis là, il déballe, puis là, il voit ça. Oh, le petit livre rouge. Oh, je pense que ça va être une lecture bien intéressante. Puis là, il est tout content. Puis là, je dis, attends, feuille-le un peu. Puis là, quand ça a feuilleté, on a tous éclaté de rire. C'était absolument hilarant. T'aurais dû voir sa gueule. Et, en tout cas, on l'a trouvé bien drôle. Puis vous pouvez vous le procurer sur Amazon, pas cher, en bas de 10$. Why Socialism? 200,
gros, il aurait pu faire ça. Ouais. Il aurait pu mettre 20 pages. Il en a mis ouais. 250.
Il n'y a pas de table des matières. Il n'y a rien d'autre dans le livre que « it doesn't ».
Je l'ai envoyé à mon oncle. Il m'a appelé de Californie. Il dit, ah ouais? Je l'ai envoyé à tout le monde dans mon bureau.
Ah, tu m'as dit ton oncle en Californie, il était un petit peu redneck, hein?
Ouais.
That's it. Liberty loving.
Ouais.
Il devrait changer d'état, par contre. Ouais. Puis le deuxième livre que j'ai acheté à Antoine, c'était 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos de Jordan Peterson, que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai hâte de lire son
depuis
livre.
Depuis qu'il tu l'as vu sur Joko, c'est-tu là que tu l'as
ouais, découvert? Je l'ai découvert à travers le podcast de Joko.
Il est allé 2-3 fois sur Joe Rogan. Il est allé partout. Sam Harris là-dessus. Tu écoutes Sam Harris?
Non, pas encore. C'est le prochain auquel je vais.
Pas pire, ouais.
Je vais m'atteler. Mais ouais, je l'ai découvert à travers Joko Willink. Parce que moi, à la base, je suis un fan d'affaires internationales, de défense et de sécurité, puis de tout ce qui est militaire. Puis, ouais, Jocko Willink, gros podcast,
ouais.
Je me lève pas à 4h30 le matin, par contre.
Avec une photo.
Ouais, même. Je suis un peu paresseux là-dessus. Ouais, c'est un malade. Tu te lèves-tu genre tôt tout le temps?
Depuis un mois, je me lève à 5h30.
Oh.
Un mois et demi.
Peu importe ce que t'as à faire.
Non. 3 fois par semaine.
OK.
Tranquillement.
OK. Ouais.
Ouais. Non, c'est à cause de lui, là.
Ouais.
Comme honnêtement, je me lève à 5h30, puis après, j'ai commencé avec l'idée de me lever à 5h30, puis après, j'ai meublé mon horaire par rapport à ça. Là.
Ok.
Mais c'est nice. C'est nice surtout quand il est genre 4h, puis comme t'as fait ta journée, comme t'es prêt à faire genre.
Ouais.
T'es
shit.
T'es
là.
Off, ouais. T'as tout fait ce que t'avais à faire, genre, ouais. Puis il te reste encore genre 6h debout, genre.
Tu m'aurais dit ça pendant que j'étais à l'école, puis je serais comme bullshit. Fuck that. Genre, y a pas d'avantage à le faire. Depuis que je travaille, plus j'arrive tôt à la job, tu sais, mettons, quand j'arrive à 9h, t'arrives, tout le monde est déjà au bureau, t'as déjà des emails dans ta boîte, comme, c'est difficile de prendre le dessus. Man, quand j'arrive au bureau à 7h, puis que j'ai de 7 à 9 avec personne dans le bureau, puis que je peux commencer à faire une couple d'activités productives sans être dérangé, c'est les meilleures 3 heures de la journée. Fait que genre, man, ceux qui se lèvent à 4h30, genre, je comprends pourquoi.
Ouais, mais là, c'est ça, puis tous ces gars-là, ils ont tous des kids aussi. Fait que tu sais, il y a aussi ça, là. T'as genre 2 heures tranquillos sans les jeunes qui crient. Ouais.
Tu t'entraînes, tu te fais à déjeuner, tu réponds à tes emails.
Ouais, mais là, Joko, il y a pas genre un fucking gym chez lui aussi, hein?
Probablement. C'est un malade. C'est une bête.
Ouais.
Tu veux pas te pogner contre lui dans la rue, là. Casse la gueule. Mais ouais. Donc, Why Socialism Works, c'était vraiment drôle comme cadeau. Puis Jordan Peterson, j'ai hâte de le lire aussi.
Peterson. Ouais, c'est un. Ben, il a été écrit. Mais...
Tu l'as-tu lu?
Non. Mais je le suis un peu, mais j'ai pas lu son livre. Mais il était dans les top sellers de.
Amazon. Ouais. Plus d'un million de copies vendues, ça dit sur le livre. Ouais. Imagine, l'inconnu, 18,99 sur Amazon Prime. Imagine s'il fait juste, genre, 5 sous, là, 5 piastres là-dessus.
Ouais.
Ouais,
il a c'est fucked up.
Ouais, sa job de professeur, genre, il s'en branle. Ouais.
Il est encore prof, toi.
Ouais, ben, une fois que t'as le titre, tu l'as à vie.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Bon.
C'est dommage d'avoir perdu le fil conducteur tantôt, puis les 20 minutes.
Ouais, mais on a repris le dessus un peu avec l'éducation, ça devait. On a perdu un bon.
Mais c'est jamais aussi bon que quand ça sort.
Mais ça acheté à quoi ça à cause de Joko, là? Pareil.
Timex.
Ben, c'est semblable.
Non. Ça te mais prend la Timex Iron Man.
Bon, ok, on wrap up, c'est ouais, tout. Fait okay. Que, ben content de t'avoir eu.
Ouais.
Je te réinviterai, puis gros, j'ai essayé de step up mon game avec le hardware. Ouais. Là.
Il y a plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, genre pourquoi je suis devenu libertarien, pourquoi.
Ouais, mais c'est comme avec Antoine, ça passe vite, puis tu reviendras.
Il y a plein de sujets, moi aussi, je voulais te poser plein de questions. On n'a pas eu le temps, ça passe vite. Ouais, puis j'ai faim. C'est l'heure du
souper. J'ai soif.
J'ai soif.
À la prochaine.
Ciao.